Amis de Radio Silence, je vous dis bonjour. Je commence cette émission avec I Surrender All. Oui, prends tout Seigneur. Faire une pause dans cet univers présidentiel qui va qui nous enveloppe déjà parce qu'on se rapproche de la date fatidique. Et pour qui est-ce que je vais voter? Vous vous demandez, moi aussi je me pose la même question. Non, j'ai rigolé. Moi, c'est fait depuis longtemps. Cette élection, comme on dit, c'est pour les indécis, hein, parce que ceux qui savent déjà pour qui ils vont voter, vous savez, les convaincus savent toujours d'avance pour qui ils voteront, quoi qu'il arrive. Hein. Les débats, c'est bien, mais en général, lorsqu'on est convaincu, on est convaincu en politique. Ce qui reste donc, et je souhaite bonne chance aux candidats, ce qui leur reste à faire, c'est à convaincre les indécis, c'est à convaincre les gens d'aller voter. Et ça, ce n'est pas une petite affaire, c'est tout l'enjeu, hein, c'est tout l'enjeu. Déjà la participation, on verra ce que c'est le 23 avril, c'est bientôt. Les cœurs commencent à palpiter, chacun essaye d'y aller comme il peut, chacun avec une idée chaque jour, hein, comme Monsieur Fillon, que je suis, hein, je suis désolé pour les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai un parti pris, non. On fait les choix qu'on fait et puis on les assume. Donc, comment vous dire, je ne vais pas parler de politique aujourd'hui. Voilà, là je vous assure, je ne vais pas parler de politique. Je vais parler de quelque chose de plus léger et en même temps de plus profond. Je vais parler, de l'Esprit Saint. Ah, ça vous surprend ça. On va faire une pause spirituelle. D'où me vient cette idée de la spiritualité là tout d'un coup? J'ai toujours été dans la spiritualité. En ce moment, je suis dans une quête, une nouvelle quête comme ça de la spiritualité pour découvrir des facettes de ma propre personnalité que je ne connais pas. Et c'est une démarche qui est assez nouvelle pour moi, pas parce que je ne connaissais pas le monde de la spiritualité, non, je la connais, je la vis à ma façon, ou plutôt, oui, je la vis, oui, on va dire comme ça, mais disons que une chose est de la vivre, de se laisser transporter comme cela par le courant religieux, et une autre est de prendre la décision de se dire, je m'engage, je vais dans cette quête de la spiritualité pour comprendre un peu plus et essayer d'entrer dans le mystère de la foi. Donc cette émission, ça s'appelle le mystère de la foi. On en a besoin de la foi. Pour aller voter, vous avez besoin de la foi. Je suis d'autant plus plongée dans cet hiver, dans cet univers de la spiritualité, que pas plus tard que vendredi dernier, à mon église locale ici, nous avons fait une veillée de prière. Alors ça consiste à passer toute la nuit éveillée jusqu'au lendemain matin à 6 heures. Voilà, donc ça, quand vous faites ça, vous priez avec les frères, c'est quelque chose dans le noir, un peu de lumière de temps en temps, mais ça fait du bien, mais vraiment il faut tenir. Hein. Et c'est là qu'on voit que l'union donne l'énergie, voilà, le rassemblement, comme dit François Fillon. Alors au cours de cette veillée, à un moment donné, le pasteur, ce qu'il fait rarement, faut éclairer la salle et on a lu un passage, j'ai pas la Bible sous les yeux là, c'est Jean, le 3 je crois, et en fait peu importe le verset exactement, et les trois versets parlaient de l'amour, aimons-nous les uns les autres, ça parlait de la foi, voilà. Comment s'aimer les uns les autres, ou plutôt comment faire sentir à l'autre qu'on est en communion comme ça, affective et sentimentale avec lui, parce qu'on en a besoin pour l'Église. Qu'est-ce que ça nous inspirait comme réflexion? Le pasteur a laissé la parole parce qu'on se plaint à l'Église d'une forme de monopole de la parole. Bon, ça c'est l'Église protestante, hein. Je ne parle pas de l'Église catholique, où c'est quand même plus... comment je vais dire, sanctuarisé, il y a un protocole, il faut pas, il est immuable. Chez les protestants, surtout les nouvelles églises évangélistes, c'est quand même plus quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus participatif, voilà, c'est le mot. Et donc, on est quand même dans le bain comme ça, happé par la musique, happé par la louange, happé par l'adoration, happé par la parole que les Africains savent porté très haut et très fort, parce qu'il y a quelque chose dans les gènes et dans le sang qui coule, qui remonte à la tradition des griots, vous voyez, et où on chante, où on danse la nuit, c'est très bon. La religion, vraiment, ça parle à l'âme africaine d'une façon assez particulière, et c'est pas étonnant qu'on retrouve les vestiges, je vais dire, de cela, ou je vais plutôt dire la coulée. La coulée, j'aime bien, dans les cultes évangélistes. Donc le pasteur a passé la parole à la salle. On était combien? Peut-être 17 personnes par là. Et tout le monde n'a pas parlé. Oh, il y a quelqu'un qui a parlé de l'accueil. Alors quelqu'un a parlé de l'accueil en disant pour être manifesté déjà son amour pour l'autre, c'est déjà savoir l'accueillir. Quand il y a de nouveaux arrivés qui arrivent à l'église, il faut savoir les accueillir. Bon, on ne peut pas le faire chez les catholiques, hein, dans les basiliques, là, c'est trop grand. Chez les protestants, c'est des salles à dimension humaine, on peut le faire. Donc, il faut accueillir les frères, leur donner comme ça tout de suite une bonne image de l'église, de façon à ce que ils restent à l'église. Bon, ça, c'est évident. Et quelqu'un d'autre a parlé du suivi, qu'il ne faut pas seulement les accueillir, il faut aussi conserver leur numéro, les impliquer dans les activités de l'Église. Ça aussi, ça paraît aller de soi. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'à un moment donné, un des anciens de l'Église, il faut qu'il y ait des anciens, il y a un protocole hein, à l'Église. Alors l'ancien a dit, oui, mais c'est très bien tout cela, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on peut dépasser, enfin, construire sur cet amour la prospérité de l'Église. Comment la prospérité de l'Église peut se construire à travers l'amour entre ses fidèles? Ah, une très grande question qui a ouvert la tête. Oui, il suffit pas seulement de s'aimer, mais il faut que cet amour-là transporte l'Église vers, je veux dire, vers le ciel et qu'elle la rende un peu plus prospère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on a ce type de questions? Moi, j'ai attendu pour réagir, d'écouter. Il y a une sœur qui a dit, oui, le problème aussi, parce que l'Église, hein, voilà, il y a des fréquentations en dents de scie, parfois il y a beaucoup de gens, parfois il y en a moins. Alors, ça fait que l'Église prospère, mais en dents de scie. Comment on fait pour que cette prospérité se stabilise et soit durable? Les catholiques en savent quelque chose en ce moment, il y a une hémorragie extrême. Alors chez les catholiques, chez les protestants, pardon, la sœur, elle a dit, oui, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui viennent, qu'elles ne revoient plus, et quand elles les voient en ville, elle leur demande, bah, pourquoi tu viens plus à l'église? Et les gens disent, ah, non, non, votre église là, on parle trop mal des gens, nous, bon voilà, c'est bon, je suis venue, j'ai entendu des choses sur mon dos, je ne suis pas contente. Donc l'Église rejette les gens, les fidèles rejettent les gens, pas par l'accueil, mais par une forme de médisance qui est, comment je vais dire, ça fait partie hein, de la culture humaine, et ça fait partie des traditions, de toujours dire du mal des autres. Apparemment, ça fait du bien. On se demande bien pourquoi, parce qu'on se dit qu'en venant dans une Église, justement, on se coupe du monde. Or, apparemment, c'est faux. C'est faux. Et là, moi, j'ai pris la parole en disant que c'est faux parce que toutes les églises ont leurs problèmes entre les gens. Là où il y a beaucoup de gens, il y aura des frictions et des problèmes. Et que de toute façon, moi, si je pouvais dire quelque chose sur l'engagement des Noirs, des Africains, pas seulement vis-à-vis du religieux, mais aussi du terrain politique, parce que l'Église, faut pas croire, elle est religieuse, hein. Elle est politique, pardon. Elle est religieuse, elle est politique. Il y a un peu de politique à l'Église, il y a la politique. Ça faut aussi fuir les fidèles. Là où il y a la politique, les gens fuient parce que dans l'église, on voit bien que les gens ont leur carré hein, protégé. Bon, c'est partout où il y a des hommes, il y a ce genre de compétition-là pour certaines fonctions, pour certaines missions, pour certains événements à encadrer. Bon, moi, je leur dis, les frères, bon, certains vont dire, oui, on a dit des choses qui ne me plaisent pas, donc je viens plus. C'est trop facile parce que même en politique, on voit bien que l'engagement des Noirs, il est très lâche, très irrégulier. Ils viennent, ils viennent pas, ils critiquent beaucoup, mais ils sont toujours un peu sur la marge, à la marge. Et puis à partir de cette marge, on critique, on vient, on s'engage, on s'engage pas. Le Noir avait un problème de discipline. Alors je leur ai dit que chez les catholiques, on peut tout dire, mais il y a la discipline. Les Africains n'ont pas de discipline. Et quand on n'a pas de discipline, on n'a pas d'obéissance. Or, la religion demande obéissance. Et quand on n'a pas d'obéissance, on n'a pas ce qui est encore plus fort, c'est-à-dire la fidélité. La religion, ça marche avec la fidélité, la politique aussi. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas la fidélité, ni l'obéissance, ni la discipline, c'est vrai qu'on s'occupe de tout ce qui est autour, on a dit ça sur moi, on n'a pas dit ceci sur moi, mais ça peut pas être une raison pour pas venir à l'église. Donc pourquoi les Africains éprouvent-ils le besoin d'aller dans les églises plus qu'en politique? Et pourquoi vient-on à l'église? Si on répond déjà à cette question-là, c'est pas mal. J'ai demandé au pasteur. Le pasteur a dit, c'est évident que certains, quand on dit aimons-nous les uns les autres, il faut aussi comprendre que il est important que dans un couple, il y ait un lien, enfin qu'ils vivent les mêmes choses et que c'est difficile qu'un couple, dans un couple, il y ait un qui croit et l'autre qui ne croit pas, un qui est musulman et l'autre qui ne l'est pas. Donc on doit être baigné, on doit avoir la même huile, la même onction qui doit nous envelopper et couler. La secte Moon, par exemple, dont on a parlé, qui mariait les femmes et les hommes organisaient des grands mariages, n'est pas loin de cela. Il faut aussi que les frères, avant d'aller chercher des femmes à l'extérieur, regardent d'abord autour d'eux parce qu'il serait peut-être pour eux plus facile de vivre leur vie de couple avec une sœur qu'en allant chercher quelqu'un à l'extérieur. Donc, quand on vient à l'église parce qu'on a un projet marital, entre guillemets, ce n'est pas une honte et ce n'est pas contraire à l'esprit de l'Église. Donc, ce serait une raison pour laquelle on peut venir à l'Église. Ceci dit, lorsque les sœurs arrivent, a ajouté un autre ancien, alors cet ancien qui a posé la grande question, hein, qui est alors l'homme le plus hypocrite que moi je connaisse dans cette Église, il a posé, mais qui pose des questions intéressantes, on peut être hypocrite et poser des très belles questions, des questions profondes, hein, spirituellement profondes. Et il a dit oui, mais le problème c'est que il faut que les frères fassent aussi attention parce que il y a des sœurs qui sont venues tout de suite, ils ont commencé à draguer de façon trop féroce là, et les filles se sont barrées vite en se disant oh là là, cette église-là, on peut pas se poser les pieds qu'on ait déjà dragué de façon comme ça. Ah, non non, c'est pas la jungle, ça leur plaît pas, ils viennent plus. Ah, donc il conseille à ces frères-là d'être un peu plus civilisés dans leur façon d'aborder la sœur, d'inviter d'abord, d'aller prendre un café, d'y aller étape par étape, tout doucement, et de ne pas brusquer la sœur. Hein. Bon, des questions de drague, ça c'était la séquence un peu comme ça pour rire. Mais après, on a quand même aussi l'autre volet qui reste là en suspens. Comment faire en sorte que... Pas le volet, c'est toujours ça qui se continue, c'est les plusieurs... comment on déplie la question. Comment faire en sorte que l'Église prospère? L'Église prospérera aussi parce que elle va former des couples, des gens qui sont dans la même onction, dans la même philosophie de vie et qui vont faire des enfants et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, l'Église est inscrite aussi dans la durée parce qu'après les parents, les enfants, on espère, pas on espère, parce qu'il est écrit que si vous, vous priez déjà, vous priez aussi pour votre famille. Dont l'inscription de la famille est automatique lorsqu'il y a un seul membre de la famille qui est déjà en Christ ou dans la religion. Une petite pause. Alors, le mystère de la foi, tel que j'ai intitulé l'émission, il vient où vous allez me dire, mais tout cela, jusqu'à présent, c'est du matérialiste. D'où vient le mystère? Le mystère, il vient dans la deuxième partie de la, enfin, comment on va dire, de l'explication, ou plutôt de l'exploration de la question du frère demandant comment on fait prospérer l'Église à partir de l'amour uniquement. Bien sûr, on fait des bébés, mais il est peut-être plus. C'est plus profond. Il faut entrer dans la profondeur du message pour comprendre que dans la foi, il y a ce qui s'appelle l'engagement. Je m'engage avec moi-même vis-à-vis de Dieu et je m'engage avec les frères pour avancer dans la quête de Dieu, dans la présence de Dieu aussi, parce que Dieu est présent et nous le cherchons aussi. Et comment transformer cet engagement en acte de foi? Alors la foi en acte, pas seulement une foi déclarative, mais une foi qui se vit corps et âme. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans la spiritualité en tant que telle et qu'on comprend plus encore en profondeur le sens du mot aimer et amour, parce que c'est quoi l'amour finalement? Le mystère, la foi, il est là. L'amour, vous savez, quand vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la joie, vous avez la paix, vous sentez en sécurité, vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a l'autre. Cet autre qui est présent à vos côtés, donc il y a sa présence qui vous donne chaud, vous n'avez pas froid. Donc toute cette union-là qui donne la chaleur, qui donne une chaleur communicative, qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne l'assurance, qui donne la sécurité, c'est ça qui permet par la suite à votre cœur et à votre âme en paix et reposée et vraiment dans la plénitude, un peu comme vous voyez les béatitudes, dans une forme de je vais pas dire d'extase, mais c'est un peu ça. Ça vous ouvre le cœur, ça vous ouvre l'âme, ça vous ouvre l'esprit. Et quand vous devenez cette porte ouverte sur le monde, sur l'univers, je vais dire, cette fenêtre, alors vous pouvez entrer en contact avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne rentre pas dans un esprit triste. Vous savez, vous êtes triste, vous êtes fermé, vous êtes crispé. Non, le Saint-Esprit, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture. Il faut s'ouvrir. Et il n'y a rien de plus que l'amour qui vous permette, comme ça, par les transports qui sont absolument physiologiques, hein, je suis pas, j'aurais pu dire ça, j'étais médecin, vraiment en médecine, ce transport-là, il y a besoin de cela. Cette élévation spirituelle pour que l'Esprit Saint se connecte à vous ou que vous connectiez à cet Esprit Saint. Et donc, finalement, c'est par là où plusieurs esprits sont dans cet état d'esprit fusionnel, ouvert à la grâce, que le Saint-Esprit peut descendre, effectivement, et vous inonder de la grâce. Et la grâce étant quoi? C'est la richesse, c'est l'abondance. Et la Bible dit, là où le Saint-Esprit arrive, il y a la grâce. Et là où il y a beaucoup de grâce qui coule, il y a surabondance. Alors la grâce surabonde comme cela. Et de cette surabondance-là jaillira la prospérité de l'Église. C'est pas beau tout cela, là, ça nous sort du matérialisme pur et dur, ça nous apprend que plus faisons l'effort d'entrer dans cet état de grâce, plus nous faisons pas l'effort, nous nous engageons, parce que l'amour, c'est un engagement, je décide, autant que la religion, je décide d'aimer, je décide, enfin, quand je dis d'aimer Christ, de suivre la religion, et quand je décide de suivre la religion, je suis obligé d'obéir, je suis obligé d'être discipliné, je suis obligé d'être fidèle, ça c'est la première démarche, et après, je suis obligé d'être un être aimant un être qui a pour objectif la paix, la joie, pas seulement pour lui, mais la joie partagée, parce que c'est cela qui fera en sorte que le Saint-Esprit arrivera dans nos vies et interviendra dans les églises afin de les rendre prospères, parce que la grâce se nourrit d'elle-même, elle a besoin de rien de plus. Et si nous comprenons cela, que nous devons entrer dans cette nouvelle dimension, alors peut-être qu'on ira plus bombarder la Syrie bêtement et tuer les enfants, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne les tue pas par le gaz, ben on les tue par les bombes. J'avais dit que je ne parlais pas politique. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon, donc je vous laisse à dimanche au vote, mais peut-être que d'ici là, je pourrai intervenir, je ne sais pas pourquoi, mais je vous souhaite une semaine pleine de grâce. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.